30, temps universel. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous. Nous sommes en direct de Washington avec vous ce soir, Claire Morin-Gibourg et Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Bonsoir.
À la une ce soir, nouvelle flambée de violence en Centrafrique, nous entendrons la réaction de Joseph Zoundenko, chef d'état-major de l'ex-coalition Seleka.
Ça, c'est très honteux pour que les musulmans entrent et se battent, parce que nous avons des problèmes avec les anti-Balaka et les ex-Seleka.
Les groupes armés du Nord Mali sont à Ouagadougou afin de tenter d'harmoniser leur position avant la reprise des négociations avec le gouvernement malien.
Au Nigeria, des centaines de soldats ont fui les violences de Boko Haram pour se réfugier au Cameroun.
Si les militaires finissent par avoir peur, c'est qu'un événement mal parti.
À l'international, Gaza a respiré un nouveau cessez-le-feu illimité a été signé entre Israël et le Hamas.
Importante rencontre entre les présidents russes et ukrainiens en Biélorussie, mais sur le terrain, la tension demeure.
Et puis on n'oublie pas les sports en fin d'émission avec Nicolas Pinault, mais tout d'abord le journal. En RCA, nouvelle flambée de violence à Bambari dans le centre-est. Des violents affrontements ont opposé hier et aujourd'hui deux factions rivales d'ex-Seleka. Au moins une vingtaine de combattants auraient péri dans les combats et plusieurs autres blessés. Le point avec Félix Yepassis Zembrou.
Les affrontements ont baissé d'intensité, mais la tension était encore vive jusqu'en début de soirée. Les heurts ont opposé lundi et mardi les hommes du général Joseph Zoundenko, l'actuel chef militaire de Seleka, aux combattants peuls du général Ali Naras. Tout serait parti d'une mésentente entre les deux groupes rivaux au sujet des barrières illégalement installées dans la ville. Hamat Nejad Ibrahim, porte-parole de l'état-major des ex-Seleka, a parlé de 17 morts dans le camp du général Zoundenko et d'un mort, trois blessés dans celui d'Ali Naras. Un bilan rejeté par l'état-major qui dit qu'il n'y a eu ni vainqueur ni de vaincu. Selon des sources locales, une vingtaine d'ex-rebelles auraient été tués et plusieurs autres blessés. Pendant ce temps, à Bangui, c'est la scission au sein des anti-Balaka. Sébastien Wenezui, coordinateur adjoint suspendu, a annoncé aujourd'hui la relance des activités du Mouvement patriotique pour l'avenir, MPA, qui, selon lui, est à l'origine des anti-Balaka.
C'est un mouvement qui est dans le mouvement anti-Balaka. Dans des laps de temps, nous allons faire encore une assemblée générale où on va désigner un bureau. Donc on a besoin aussi même la communauté musulmane de venir dans ce mouvement pour qu'ensemble nous puissions aller de village en village, parler aux belligérants, parler aux chrétiens, parler aux musulmans, de s'accepter et de vivre comme avant.
Rappelons que Sébastien Wenezui a été suspendu des anti-Balaka en raison de son récent déplacement à Brazzaville avec une partie des forces vives de la nation.
Trois membres d'équipage d'un hélicoptère de la MINUS, la mission de l'ONU au Soudan du Sud, ont été tués. Leur appareil s'est écrasé dans le nord du pays. La mission onusienne a indiqué avoir ouvert une enquête pour déterminer les causes de la chute de l'hélicoptère qui s'est abîmé dans une zone où des combats sont régulièrement signalés.
Le MNLA et les autres mouvements politico-militaires du Nord Mali sont en conclave depuis ce matin à Ouagadougou. Ils veulent harmoniser leur position avant la reprise des négociations d'Alger suspendues il y a plusieurs semaines. Sur les objectifs de la rencontre, on écoute Ibrahim Ag Mohamed Assalé. Il est président de la coalition du peuple pour l'Azawad.
L'objectif de cette rencontre de Ouagadougou, c'est mettre en place une coordination commune de tous les mouvements de l'Azawad pour préparer à éventuellement les négociations avec le gouvernement malien qui sont prévues pour le 1er septembre à Alger. Et aller au-delà de ça dans le cadre de cohésion sociale entre les différentes communautés ici de la Zawad qui ont été affectées par ce conflit.
Et il semble que vous voulez avoir un statut politique pour la Zawad.
Oui, tout à fait. Ça, c'est une revendication légitime du peuple de la Zawad qui date depuis 1960 jusqu'à nos jours. C'est ce qui doit être négocié, on espère, prochainement à Alger.
Donc à Alger, vous aurez les mêmes représentants pour tous les groupes du Nord.
Tout à fait, c'est ça l'objectif de notre rencontre, qu'on ait les mêmes représentants pour tous les mouvements politico-militaires de la Zawad.
Est-ce qu'il y a une raison qui peut expliquer pourquoi vous êtes à Ouagadougou et non pas à Alger?
Ben, écoutez, je pense que Ouagadougou a été le propulseur du processus de négociation entre nous et Bamako depuis l'accord de Ouagadougou du 18 juin 2013. Pour nous, Ouagadougou reste toujours le médiateur désigné par la CEDEAO. Voilà, donc on ne voit pas pourquoi nous ne faisons pas cette rencontre ici à Ouagadougou.
Ibrahim Ag Mohamed Assalé, président de la coalition du peuple pour l'Azawad.
L'aéroport international de Tripoli est sous contrôle des miliciens islamistes de Fajr Libya. Le constat a été fait ce mardi par un photographe de l'AFP lors d'une visite organisée pour la presse dans cette installation stratégique du sud de la capitale. Aucune activité militaire n'a été signalée dans le secteur lors de la visite organisée par le service de presse des miliciens islamistes. Ceux-ci ont annoncé avoir pris l'aéroport à l'issue de 10 jours de violents combats avec des miliciens nationalistes de Zenten dans l'ouest de Tripoli. Ils tenaient cette position depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011.
L'Égypte et les Émirats arabes unis sont soupçonnés d'avoir mené des raids aériens contre les positions d'une milice islamiste dans la capitale libyenne. C'est ce que rapporte le New York Times en citant des responsables américains, Jacques Aristide.
Washington a été pris de court par ces bombardements, d'après le quotidien américain qui ajoute que l'administration Obama n'a pas été consultée au préalable au sujet de ces attaques aériennes perpétrées à Tripoli durant la semaine écoulée. Le Caire a nié avoir mené des frappes ou toute autre opération militaire en Libye. Les Émirats arabes unis, de leur côté, n'ont pour le moment fait aucun commentaire. Toutefois, les responsables américains à qui le New York Times a parlé maintiennent que l'Égypte a bien mis à disposition ses bases aériennes alors que les Émirats ont fourni les avions, les pilotes et le ravitaillement en vol. Dans un communiqué commun, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et l'Italie ont mis en garde contre les ingérences étrangères qui exacerbent les divisions et minent la transition démocratique en Libye, déjà confrontée au chaos avec la perspective de la formation d'un gouvernement pro-islamiste, rival de celui exilé dans l'extrême est du pays.
Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a limogé son conseiller spécial Abdelaziz Belhadem, selon une source à la présidence citée par l'agence APS.
Ancien président de l'Assemblée nationale et ancien patron du FLN, Belkadem a aussi exercé sous la présidence de Bouteflika les fonctions de premier ministre et de ministre des Affaires étrangères. Il a été par ailleurs demandé au secrétaire général du FLN, le Front de Libération Nationale, de mettre fin aux fonctions de M. Belkadem au sein du parti. Selon la même source, aucune explication n'a été immédiatement fournie à cette décision brutale et inédite.
Enfin, au Malawi, les 20 ministres qui rêvaient de voir leur salaire augmenter de près de 600% ne verront pas leur rêve se réaliser. C'est une demande immorale, a tranché le président. Les ministres qui sont actuellement payés environ 1 500 $ par mois souhaitaient obtenir 8 800 $ mensuels. Ils ont justifié leur demande par une hausse du coût de la vie. En comparaison, les 170 000 fonctionnaires de ce pays gagnent en moyenne 100 $ par mois.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Il est 19h38, temps universel, l'actualité dans le reste du monde.
Crise au Proche-Orient, nouveau cessez-le-feu illimité à Gaza entre Israël et le Hamas. Un accord qui intervient après 50 jours de combats dans l'enclave palestinienne le long de la Méditerranée. Un haut responsable du mouvement islamiste a déclaré que la longue trêve permettrait de mettre fin au blocus israélien et égyptien de Gaza et prendra en compte d'autres exigences palestiniennes lors de négociations dans les prochaines semaines. Des milliers de Palestiniens ont célébré dans les rues de Gaza l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Ce conflit de 50 jours a fait plus de 2130 morts dans l'enclave palestinienne, selon l'agence France-Presse.
L'armée de l'air syrienne a effectué des dizaines de raids visant des positions des djihadistes de l'État islamique dans la province de Deir ez-Zor, dans l'est du pays. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ces raids ont fait au moins 7 morts parmi les civils et tué des combattants de l'État islamique sans qu'il soit possible d'en préciser le nombre. Pendant ce temps, selon un haut responsable de la Maison-Blanche, le président américain Barack Obama aurait autorisé des vols de surveillance au-dessus de la Syrie en prévision d'éventuelles frappes. Le fonctionnaire a déclaré lundi soir qu'Obama n'a pas approuvé d'action militaire pour le moment.
L'aviation irakienne a pilonné les djihadistes qui assiègent depuis plus de 2 mois la ville turcomane chiite d'Armerli au nord de Bagdad, dont les habitants manquent d'eau, de vivres et risquent d'être massacrés. C'est ce que rapporte l'AFP citant un colonel. Au total, 9 raids aériens ont visé le groupe ultra-radical de l'État islamique, selon le colonel Mustafa al-Bayati.
En Biélorussie, poignée de main importante ce mardi à Minsk, les présidents russes et ukrainiens se sont serrés la main avant une réunion cruciale avec l'Union européenne. Sur le terrain, Kiev affirme pour la première fois avoir capturé des soldats russes. Nicolas Pinault.
N'hésitant pas à lancer devant la presse que le sort du monde et de l'Europe se décide au cours de cette rencontre, Petro Poroshenko s'est dit disposé à discuter de toutes les options qui permettraient de mettre fin aux violences. Seule condition préalable à ses yeux, le renforcement des contrôles à la frontière russo-ukrainienne et la fin des livraisons d'armes aux rebelles séparatistes par Moscou. Son homologue russe, Vladimir Poutine, lui a répété que le conflit ne peut être résolu à travers une poursuite de l'escalade militaire sans prendre en compte les intérêts vitaux des régions du sud-est de l'Ukraine. La situation militaire et diplomatique est telle qu'une sortie de crise durable est peu probable à l'issue de ce sommet. La preuve, quelques heures avant la rencontre, Kiev a diffusé des interrogatoires filmés de soldats russes comme la première preuve matérielle de l'implication de Moscou dans le conflit. Arrêtés lundi soir à une vingtaine de kilomètres de la frontière, les 10 parachutistes appartiendraient au 331e régiment de la 98e division aéroportée basée en Russie. Autre tension supplémentaire, Moscou affirme vouloir envoyer dès cette semaine un nouveau convoi humanitaire quelques jours seulement après l'entrée en territoire ukrainien d'un premier convoi sans l'autorisation de Kiev.
En France, le président François Hollande a présenté un gouvernement dont sont absents les principaux représentants de l'aile gauche socialiste. Le ministre de l'économie Arnaud Montebourg a été remplacé par un ancien banquier d'affaires Emmanuel Macron. 12 des 16 ministres sont maintenus dans leurs fonctions. On note le départ des principaux représentants de la gauche socialiste, partisans d'une politique plus sociale.
En Afghanistan, un geste qui risque de compliquer le processus politique. Abdullah Abdullah, candidat au second tour de la présidentielle de juin, menace de se retirer du processus d'audit des votes supervisé par les Nations Unies. Un important membre de sa campagne a déclaré aux journalistes ce mardi que les auditeurs n'ont pas la volonté de supprimer des votes qualifiés par son équipe de frauduleuses. Le même cadre de sa campagne annonce qu'Abdullah va se retirer demain matin si leurs préoccupations n'ont pas été prises en compte.
Voilà pour le journal au micro Bagassi Koura et Claire Morin-Jubour en direct ici de Washington.
On passe à la partie magazine de cette émission. Au Nigeria, les islamistes de Boko Haram poursuivent leur offensive dans le nord-est du pays, où ils occupent plusieurs localités, notamment la ville de Gwoza, dans l'état de Borno, qui selon eux fait désormais partie d'un califat islamique. Incapable de faire face à cette violente campagne, de plus en plus de soldats nigérians franchissent la frontière. Ils étaient plus de 500 à s'être récemment réfugiés au Cameroun voisin avant d'être reconduits à la frontière. Qu'est-ce que cela signifie pour la lutte contre Boko Haram? Timothée Donangmai a joint le professeur Tundunu Amosu, ancien vice-recteur de l'université de Lagos.
Beaucoup d'incrédulité, les gens n'en reviennent pas, parce que d'aujourd'hui, nous, on a affaire à des militaires qui doivent quand même se battre comme des militaires, ou alors c'est tout simplement des gens qui n'ont pas compris le sens de cet effort que nous menons contre le Boko Haram, mais si les militaires finissent par avoir peur, c'est qu'on est vraiment mal parti. Et du moins, d'après ce que certains nous disaient ce matin, ou on nous cache la vérité, ou alors il se passe des choses là-bas qui sont vraiment étonnantes. Toujours est-il que de toute façon, si les militaires n'arrivent pas à combattre les Boko Haram, on se demande qui serait encore en mesure de le faire.
Du côté du ministère nigérien de la Défense, on dit que ces informations ne sont pas vraies.
Bon. Il faut voir, on ne sait pas exactement à qui se fier dans ce genre de situation. Vous savez, la vérité, évidemment, il faut aller la chercher. Il faut aller la chercher peut-être du côté des Camerounais qui pourraient nous dire exactement dans quelles conditions les militaires nigérians ont pu traverser la frontière. Parce que nous, ce qu'on a lu dans les journaux ce matin, c'est que c'est des militaires qui se sont égarés en poursuivant les Boko Haram. Franchement, on ne sait même plus à quoi s'en tenir.
Il y avait tout de même une grogne au sein de l'armée nigérienne avec certains soldats qui disaient qu'ils ne sont pas suffisamment armés contre Boko Haram.
Et effectivement, et je crois que c'est à l'origine, c'est un peu ceci qui explique cela, comme on dit. Parce que de toute façon, si les militaires ne sont pas bien armés, si les épouses des militaires ont à un certain moment empêché leur mari d'aller se battre, justement parce qu'elles disent qu'ils ne sont pas suffisamment armés, alors on pourrait bien comprendre ce genre de comportement de la part de nos militaires.
Le président Goodluck Jonathan a instauré l'état d'urgence dans la région concernée, a envoyé des renforts militaires, tout cela sans succès apparemment. Est-ce que la guerre contre Boko Haram est perdue?
La guerre contre Boko Haram, je crois qu'il va falloir prendre des mesures beaucoup plus énergiques et mettre le paquet. Sinon, cela va donner à ces Boko Haram l'idée qu'ils sont capables de tout. On n'est pas au Moyen-Orient, on est encore au Nigeria où, quand même, jusqu'ici, toutes les activités de ces énergumènes cantonnées quelque part au nord-est du pays, mais à partir du moment où ils se croient tout permis, moi je ne vois pas pourquoi ils ne vont pas défendre en grand nombre sur le reste du pays.
Le professeur Tundonu Amosu, ancien vice-recteur de l'université de Lagos.
En RCA, au moins 25 combattants ont été tués lundi dans des affrontements entre deux factions rivales de l'ex-rébellion Séléka à Bambari, dans le centre du pays. Les violences se sont poursuivies aujourd'hui selon une source au sein de la force africaine MISCA, citée par l'agence France Presse. Les combats mettent aux prises le groupe du général Joseph Zoundeko, chef d'état-major de l'ex-coalition Séléka installée à Bambari, et celui du général Ali Diaras, comprenant des peuples armés, des groupes qui circulent dans la région, a ajouté le même officier. Justement, Idriss Fall a joint le général Joseph Zoundeko à Bambari.
On est venu ici, on a fait 3 mois, il y a eu un monopole de barrière là, par le général Ali Barata, les peuples là qui sont sous la barrière. Les grandes régions ont décidé d'aller se faire le relève. Malheureusement, ils n'ont pas tombé d'accord, il y a eu discussion là entre eux, entre les hommes là-bas. Les imams sont venus me voir pour des solutions. Comme ça, le problème sera résolu et on va ramener d'autres personnes neutres. Malheureusement, il y a une grande surprise là. Ils sont jurés directement et ils sont venus attaquer mes hommes qui sont dans leur base.
Est-ce qu'on a une idée de bilan?
Oui, si on parle d'une vingtaine de personnes, ce sera possible. Mais pour l'instant, on n'a pas le bilan exact. Mais je vais vous dire de ma côté, j'ai eu 3 morts et peut-être 7 personnes blessées qui se trouvent à l'hôpital.
Qu'est-ce qui fait la différence entre vous et Ali Diaras? Est-ce que c'est un membre de la Séléka? Est-ce que c'est un musulman? Qu'est-ce qui fait la différence?
Il n'y a pas la différence entre Ali Diaras et moi. Nous sommes tous des musulmans et il est sous mes commandements. Il est le sous-chef d'état-major chargé des opérations. Donc, nous sommes tous dans les chaînes de commandement de l'ex-Séléka, la force républicaine.
Donc, si les Séléka se tirent entre eux, c'est très mauvais pour la Centrafrique. Donc, même au sein de l'état-major, il n'y a pas d'unité alors.
C'est très honteux que vraiment aujourd'hui, les ex-Séléka du musulman se battent entre eux.
Ce sont les ex-Séléka aussi qui ont rejeté le gouvernement de Mahamat Kamoun et vous vous battez entre vous, qui lui aussi est musulman.
Si, lui, il est musulman, bien sûr, mais il n'est pas de l'ex-Séléka.
Le général Joseph Zoundeko, chef d'état-major de l'ex-coalition Séléka.
Beaucoup d'inquiétudes au Mali concernant la saison agricole 2014-2015 en raison de l'irrégularité de la pluie sur l'ensemble du territoire national. Face à cette situation, les agriculteurs et les producteurs préparent la contre-saison. Ils mettent l'accent sur les cultures vivrières tout en se basant sur les retenues d'eau, ce qui va leur permettre de mieux surmonter le manque de pluie. Le ministre du Développement rural, lui, continue de sillonner les zones de culture et il espère que cette saison agricole puisse encore être sauvée. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Depuis le début de la saison hivernale, saison agricole au Mali, car cette activité est tributaire de la pluie. La pluie se fait rare, d'où l'inquiétude chez les paysans. Dans la zone office du Niger, zone de culture du riz par excellence, l'absence de pluie n'est pas un souci. Ilias Gouro, président directeur général de l'Office du Niger.
Pour ce qui est de l'Office du Niger pour la campagne 2014-2015, l'Office du Niger envisage d'enlever 110 000 hectares pour une production de 693 000 tonnes de paddy. Prévoyant également des surfaces maraîchères, disons, de près de 17 000 hectares, des superficies de riz, des superficies de maïs de 720 hectares et des superficies de mille sorgho de 2500 hectares. Nous prévoyons une production totale, disons, de 771 000 tonnes de paddy.
Dans la région de Koulikoro, la saison avait bien démarré, mais de nos jours, les paysans voient deux fois la pluie dans la semaine.
Globalement, nous sommes à 884 000 hectares réalisés et l'aspect des cultures vraiment en cette période est bon dans l'ensemble.
Les paysans aujourd'hui se transforment en paysans professionnels. Cette professionnalisation amène à faire beaucoup de superficie, à appliquer les techniques qu'il faut pour que les rendements puissent être augmentés et assurer vraiment notre suffisance alimentaire.
Contrairement à la région de Kaye, c'est le fait même que la saison a accusé du retard. À cela, il faut ajouter la rareté des pluies. Les paysans ont jeté leur dévolu sur les retenues d'eau pour tenter de sauver la saison.
La campagne est à deux niveaux chez nous. Sur la partie nord, les labours semis viennent de commencer, tandis que dans la partie sud, c'est en pleine végétation.
Le volume, la pluviométrie vraiment cette année, si on voit même les cours d'eau, il n'y a même pas d'eau dans les cours d'eau. Alors que certaines localités, leur force, c'est à partir des décrues.
En faisant le tour des différentes zones agricoles du Mali, le ministre du Développement rural ne désespère point. C'est pourquoi il mise sur les cultures dans les périmètres aménagés. Bokari Treta.
Je voudrais bien espérer que les producteurs vont pouvoir exploiter ces périmètres pour la campagne, au moins sur la contre-saison 2015-2016 et la véritable saison 2016-2017. Nous sommes en train de nous investir pour que du niveau national, où non seulement cette vision est partagée et mise en œuvre, vraiment donc nous voulons trouver son reflet au niveau régional.
Face à cette situation, les paysans, agriculteurs et producteurs sont en train d'échanger le fusil d'épaule en préparant la contre-saison tout en se basant sur les retenues d'eau. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Ici aux États-Unis, le nombre d'immigrés africains à New York a nettement augmenté au cours des deux dernières décennies. Mais jusqu'à tout récemment, ces Africains d'Afrique de l'Ouest essentiellement vivaient en vase clos dans leurs communautés respectives. Aujourd'hui, ils se retrouvent pour célébrer leurs racines communes et exigent la reconnaissance du poids qu'ils représentent maintenant dans la grande métropole présentée par Lionel Gaïma. Un reportage réalisé le week-end dernier dans le Bronx, un quartier de New York, à l'occasion de la parade et du festival de la diaspora africaine.
Tambours et tenues traditionnelles aux couleurs vives, conversations dans les langues nationales, sourires aux lèvres, etc. Toute cette joie débordante que l'on voyait dans ce défilé faisait penser souvent à la mère patrie, l'Afrique, plutôt qu'au Bronx. L'un des organisateurs, Bourema Nyambele, est d'origine malienne. Nous venons ici aujourd'hui pour célébrer la diaspora africaine en tant qu'Africains de la diaspora, peu importe où vous avez vu le jour. Nous nous retrouvons tous ici pour célébrer notre culture. La parade aboutit à un parc où s'est tenu un festival de musique et de danse pendant toute l'après-midi. Ça doit se passer comme ça, estime Gandhi Ambrose, un danseur du Cameroun et leader de la communauté dont le chapeau de cérémonie, selon lui, montre qu'il descend d'un roi. Pour lui, l'Afrique est elle-même un festival. L'Afrique n'est que terre de joie et de bonheur, malgré tous les problèmes que nous voyons dans cette partie du monde. Cette joie continue de dominer dans notre façon de faire. Je suis danseur. Les Africains ont la danse dans le sang. Ils bougent. Nous n'avons pas besoin de formation. Nous n'allons pas à l'école pour cela. Nous dansons simplement. Les organisateurs du festival soulignent que la diaspora inclut toute personne ayant des liens culturels avec le continent. Cela signifie les Hispaniques, dont le cha-cha est basé sur des rythmes africains, et les Africains-Américains, dont le dialecte plat traditionnel rappelle la patrie. Pour les Antillais, comme le Jamaïcain Sadiq Kimball, ces racines africaines sont très profondes. Nous avons en nous une partie de l'Afrique, nous venons de là-bas, c'est dans nos gènes, et nous en sommes fiers.
Mais cela ne signifie point un rejet de la culture américaine. Bien au contraire, comme le suggérait le poète et chantre de la négritude, Lopo Cédar Senghor, il s'agit de s'enraciner dans ses propres valeurs de civilisation tout en s'ouvrant au souffle vivifiant de l'extérieur. La fanfare de lycée et le hip-hop faisaient également partie du programme. Pour le libérien américain Charles Cooper, ce n'est pas autre chose qu'une question de similitude, de complémentarité et de symbiose. Vous réalisez vos similitudes, c'est un événement où c'est la joie. Les gens viennent, les gens dansent, les gens s'éclatent. Des gens qui normalement ne parlent pas et se croisent dans la rue sans échanger un mot. Ici, dans cet environnement, ils se parlent, ils discutent et ils échangent des infos. Selon le directeur de publication du Carib News, Carl Rodney, ces différents groupes abordent plus facilement les questions politiques dès que leurs valeurs communes deviennent plus claires.
Je pense qu'il y a une grande conscience que les barrières qui nous séparaient précédemment, africains, américains, caribéens, américains, continental africains.
On devient plus conscient du fait que les barrières qui nous séparaient auparavant, africains, africains, antillais, africains ou hispaniques, sont toutes artificielles. L'agenda est le même. Si vous voulez un taxi ou des services, ils ne vous demandent pas d'où vous venez, des Antilles ou de l'Afrique. Vous êtes noir, donc nous nous voyons en partenaire de la diaspora noire ou africaine. Et c'est là que nous voyons le potentiel d'une influence politique encore plus grande. C'est la tendance et elle est réelle, conclut le frère de Carib News.
Voilà, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. Bonsoir Nicolas Pinot.
Bonsoir Bagassi Koura.
Voilà, vous êtes là pour la page des sports et on commence par du football. La première sanction est tombée suite au décès d'Albert Ebossé en Algérie le week-end dernier.
Oui, la JS Kabylie ne pourra pas jouer dans son stade du 1er novembre à Tizi Ouzou jusqu'à nouvel ordre. C'est ce qu'annonce la Confédération africaine de football. La sanction a été arrêtée après une réunion entre la Fédération algérienne de football et la Ligue professionnelle algérienne.
Et cette tragédie a incité la Fédération malienne à demander le report de sa rencontre avec l'Algérie.
Et oui, pour des raisons sécuritaires, Bamako a demandé à la CAF une délocalisation de la rencontre Algérie-Mali prévue le 10 septembre prochain dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2015.
Autre report dans cette course à la CAN, cette fois-ci pour cause d'Ebola.
Par mesure de précaution, la Fédération ivoirienne de football a annoncé que la rencontre Côte d'Ivoire-Sierra Leone n'aurait pas lieu comme prévu à Abidjan le 6 septembre prochain.
Est-ce qu'on sait où ils veulent jouer ?
Non, pour le moment, ce n'est pas décidé, mais ce sera de toute façon en Côte d'Ivoire, certainement.
Ouais. Et la CAN 2017, hein, ce n'est pas demain, mais le Ghana y pense déjà.
Suite au désistement de la Libye, les Black Stars du Ghana, déjà pays organisateur de l'édition 2008, ont officiellement fait acte de candidature pour accueillir cette CAN 2017. C'est une candidature à prendre au sérieux, Bagassi, car le Ghana dispose déjà de 4 stades requis, Accra, Kumasi, Sekondi, Takoradi et Tamale.
Et transfert en Europe.
Manchester United qui casse sa tirelire. Officialisation aujourd'hui de l'arrivée d'Angel Di Maria pour une somme record en Angleterre, 75 millions d'euros. L'international argentin quitte donc le Real Madrid et s'est engagé pour 5 ans avec les Red Devils. Et puis le défenseur de Bastia, Romaric Ndri, a prolongé son contrat d'un an avec le club corse. L'Ivoirien âgé de 31 ans dispute ainsi sa deuxième saison avec le club bastiais. Et puis le Stade Rennais a fait signer le défenseur central sénégalais Fallou Diagne pour 3 ans.
Enfin, les barrages retour en Ligue des Champions.
Le Standard de Liège, éliminé par le Zénith Saint-Pétersbourg, défaite 3-0. Et à la mi-temps sur les terrains en Europe, match nul 0-0 entre Porto et Lille, entre le Celtic Glasgow et Maribor 0-0. Et puis 2-0 entre l'Apoel FC et Aalborg. Enfin, Baté Borisov et Slovan Bratislava, un but à 0.
Voilà, merci Nicolas, c'est tout pour le sport.
Et on se quitte avec le groupe Koteba et les trois go d'Abidjan pour le titre Tuniafo.
Quel intime salut, tu nous n'as pas.
Et c'est sur cette note musicale que s'achève le Monde aujourd'hui que vous propose La Voix de l'Amérique.
Et merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à la rédaction de La Voix de l'Amérique. Nicolas Pineau a présenté les sports et Giorgio Leonard Sano à la réalisation. Passez une excellente soirée à l'écoute de La Voix de l'Amérique.